fait.
All right.
Ah, c'était-tu Bernard Drinville qui dit « On aime ce que vous faites? » Je pense que oui, c'est sa voix. Oui, je pense que c'est sa voix. Hey, à Québec, présentement, c'est autour de 19 degrés. Je pense pas que ça montre, bien honnêtement. On parlait d'un maximum de 25 avec le facteur humidex 32. Actuellement, il n'y a pas d'humidex, mais pas en tout. Ce soir, bon, on parle d'orage aussi, de pluie. Partout à la grandeur de Québec, il pleut comme pas possible et la route a de la misère à se dégager de sa propre pluie qu'elle a reçue.
Je ne sais pas si tu as vu dans la conversation de groupe ce que j'ai envoyé. Merci à notre auditeur qui nous a envoyé la vidéo. C'est épouvantable, c'est pire que je pensais. T'sais, nous autres, on est dans notre local en ce moment, on fait de la radio avec vous. Vous nous dites qu'il y a des accumulations d'eau, le 5-1 aussi, mais quand on voit vos vidéos, c'est là qu'on comprend que c'est pas des accumulations d'eau, c'est vraiment des rivières qui se sont créées là, sur nos réseaux routiers. Puis justement, on a eu un communiqué du service de police de la ville de Québec. Dans le secteur de la Haute-Ville et de la Basse-Ville, c'est là où c'est le plus difficile. On a les équipes de la sécurité publique qui interviennent actuellement dans plein de secteurs. Il y a des pluies abondantes. Il y a une présence d'eau sur la chaussée, puis ça, c'est peu dire. Je vais vous dire conséquemment ce qui est arrivé dans quel secteur. Secteur de la Haute-Ville, on a la côte de la Pente-Douce qui est fermée, de la Haute-Ville à la Basse-Ville. L'avenue Belvédère, l'avenue Chouinard, l'avenue Calixa-la-Vallée, ça, c'est fermé. Secteur de la Basse-Ville, chemin du Foulon, Côte Gignac, Côte Gilmore, la rue du Petit Champlain, la rue Champlain entre la rue des Sapeurs et du boulevard Champlain, c'est fermé. Il y a plusieurs feuilles de circulation qui sont non fonctionnelles. Alors, le SPVQ rappelle aux conducteurs que c'est arrêt obligatoire dans ce cas-ci et circulation en alternance aux intersections.
Mon chum Jason écrit présentement « Possible accident mortel à Saint-Gédéon en Beauce. La route 204 est fermée dans les deux directions. Donc, si vous êtes capable de trouver une route alternative, c'est le temps de le faire. Si vous êtes pogné là-dedans, on en est désolé. On me dit que policiers, pompiers et ambulanciers sont sur place. Tout le monde travaille. Essayez de faire le travail le plus rapidement possible. » Notre chum Mathieu Thomassin est là. Salut Matt!
Hey, bon midi à mes animateurs préférés et mes auditeurs aussi.
Cher chroniqueur automobile préféré des Québécois et des Québécoises, est-ce que tu étais dans un show de Coldplay dans les dernières heures?
Non, mais j'aurais aimé. Comment ça?
Ben, je sais pas. Il y a un homme, un bel homme, là, grisonnant, qui a été aperçu en pleine étreinte avec une jeune femme. Et quand les caméras de Coldplay, là, durant le spectacle, sont passées sur eux, se sont séparés assez vite. Fait que là, on a pensé que ces gens-là faisaient des choses qu'ils n'avaient pas d'affaires à faire. C'est quoi l'histoire, Pascal?
Ben moi, j'ai les informations. Il s'appelle Andy Byron, je vais le nommer. Il était à Boston pour le show Coldplay. C'est un PDG. C'est un PDG d'une grosse compagnie de technologie qui s'appelle Astronomet. Et la fameuse femme dans ses bras, ben, c'est une de ses collègues. Mais il est marié et il a deux enfants. Donc, vous voyez la scène du genre « Ah, c'est donc bien bon Coldplay, mon Dieu qu'on est content d'être ici, taponnage, content. » Et là, la caméra se tourne vers eux dans l'immense cercle qui sert justement à Coldplay pour aller chercher, comme dans des caméras sportives, les gens qui s'aiment. Mais eux, ils s'aiment, mais au dépens de la femme de cet homme-là qui s'appelle Andy Byron. Quand ils se sont vus dans l'immense sphère, ils se décollent automatiquement. L'homme se penche, la femme se tourne. On la voit de dos pendant de longues secondes et la caméra se tasse un petit peu vers l'autre femme qui les accompagne. Et clairement, on a l'impression de croire que c'est peut-être une autre collègue ou qu'elle connaît les deux amoureux slash qui sont peut-être en cavale.
Ouais.
Mais elle est un peu crampée, là.
Les deux sont mariés, là.
La femme, je sais pas. Comme je te dis, Andy Byron, je sais qu'elle est mariée. Lui, il est marié et il a deux enfants.
Visiblement, lui, il n'a pas entendu la fameuse phrase « Don't fuck with the payroll ». Incroyable.
Ben, on va lui souhaiter mes sympathies. Hein.
Non, mais il y a une couple d'images comme ça qui circulent, mais il y en a un aussi. Je pense que c'était pendant un match de hockey. Il est à côté d'une jeune femme, puis les caméras tombent sur lui, puis visiblement, il ne s'attendait pas à être filmé par les caméramans qui diffusaient les images sur l'écran géant. Et tu vois dans ses yeux que le gars, il est clairement dans l'embarras. Et c'est soit qu'il n'était pas supposé d'être là ou soit qu'il trompait sa femme. Je pense que la deuxième option, c'est pas mal plus ça avec la face qu'il a faite. Ah, c'est génial, ces affaires-là.
Est-ce que c'était un épisode de Kiss Cam? Ou... Ah,
ben, pour Coldplay, ce que j'expliquais, ça semble être ça, mais pas Kiss Cam. Juste, oh, qui apprécie le show? Qui se colle? Qui est heureux d'être avec l'autre? Ouais, je sais pas s'il était si heureux à ce moment-là.
Ah, moi, quand je vois ces affaires-là, je me dis finalement, ma vie est pas si pire. Ma vie est plate, mais elle est pas si pire.
Toujours active, cependant, ta vie.
Hey, on me dit que tu aurais été aperçu sur un trois-roues sur les routes du Québec dans les derniers jours. Qu'est-ce qui s'est passé, Mathieu?
Hey boy, est-ce qu'on va avoir du jugement parce que j'ai roulé un Can-Am? Ben écoute, premièrement, on s'en rend compte rapidement quand il fait beau que la mode des Spiders, là, il y en a une battée, ça n'a pas de bon sens. Can-Am qui avait lancé ça, pourquoi? Pour créer un peu comme une alternative à la moto. Et quand moi, je me rappelle la dernière fois d'avoir conduit un trois roues, c'était une roue en avant, deux en arrière, il y avait un signe Big Red.
Les Big Red,
oui. Oui, et c'était une tuasse. Là. Je l'ai encore, mon vieux Big Red 250, et c'est encore un véhicule que j'ai peur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la stabilité n'est pas là. Mes Can-Am ont rapidement compris qu'en mettant deux roues en avant, une en arrière, ce véhicule-là deviendrait un très gros succès. Et on pousse l'audace de faire des modèles qui sont un peu plus hors-route. Parce qu'on se rappelle, d'entrée de gamme, on a le fameux Ryker, qui est comme le modèle sportif, si on veut. Il y a la possibilité d'aller chercher, disons, un Spider F3 ou encore RT, qui est beaucoup plus adapté au modèle touring. Et voilà que Can-Am attaque le côté aventure, ce qui manquait un peu plus, avec un Spider qu'on appelle Canyon, mais surélevé, suspension ajustable, motorisation 1330cc, et j'ai été aperçu là-dessus et un peu jugé. J'ai versé une larme, je dois te dire.
Ben, moi, je vous laisse vivre, là. Tu sais, je vous laisse vivre. Le problème étant, c'est quand vous m'envoyez la main sur vos trois roues, je fais juste semblant de ne pas vous voir.
Ouais, ça, la relation moto et Can-Am Spider, c'était effectivement à explorer. Mais tu sais, je vais être franc avec toi. J'ai fait un petit vidéo du côté bon du pit de sable parce que c'est un véhicule d'aventure. Donc, il y avait vraiment une piste sur laquelle le sable est quand même très, très, très mou, très fin. Et lorsque la chaleur augmente, n'importe qui fait un peu du hors-route sait très bien qu'est-ce qui arrive, c'est que les véhicules calent un peu. Mais en même temps, le Can-Am Canyon, bien que c'est un modèle d'aventure, il ne cible pas les amateurs de hors-route. Puis ça, on dirait qu'au Québec, on a de la misère à tirer une ligne entre où est-ce que les Jeeps vont et où est-ce que n'importe quel autre véhicule devrait aller aussi au travers de tout ça. Donc, c'est beaucoup plus fait pour aller, pêcher sur un chemin de Zec. Quelqu'un qui a vraiment des routes de gravelle lorsqu'il s'éloigne, disons, en région, qui veut monter dans le nord du Québec, puis qui veut le faire avec son Spider, c'est parfait pour ça. Il y en a même qui ont fait de la boîte, il y en a qui ont fait du sable. Il faut être conscient cependant que si jamais il y a quoi que ce soit qui rentre dans la partie de la courroie, ben oupala, ça va faire un petit peu mal. Mais j'ai compris pourquoi il y a autant de gens qui aiment ça. Puis là, je suis obligé d'y aller avec... je veux pas faire de l'âgisme, mais souvent les propriétaires de Can-Am Spider, les gros modèles touring, sont souvent avec ma tante Jacqueline en arrière. Hein? Et je comprends que c'est une évolution à la moto. Toi puis moi, Marceau, on est encore en forme. Quand on arrête aux lumières rouges, on est encore capable de tenir le gros bike. Pas de problème de stabilité si l'autre, elle se met à gigoter un peu en arrière. Mais quand tu tombes vraiment avec ce véhicule-là, c'est le confort, c'est la stabilité. Et je dois avouer qu'avec le petit Canyon, c'était le fun parce que ça avait quand même un bon punch. C'est quand même un 115 HP là, là-dedans avec presque 100 litres de couple. Puis, tu as même une caméra de recul, les valises de voyage, un mode de conduite qui est comme rallye. Ça l'absorbe vraiment bien les chaos, mais il faut faire attention à bien choisir le mode de suspension, le mode de conduite qui va être adapté à la route que tu vas faire face. Fait que si tu arrives dans les trous à Sainte-Brigitte, je te le dis tout de suite, raidis un peu la suspension car vous allez constater que le système de stabilité y est pas trop long à vouloir intervenir parce qu'on veut garder le véhicule le plus sécuritaire possible. Et pour ceux-là qui s'inquiéteraient, trois roues, c'est-tu vraiment stable? Avant de se virer à l'envers avec ça, ça va prendre une grue, je pense.
Non, c'est ça. Moi, j'en ai essayé un aussi. Puis effectivement, moi, ce qui m'avait surpris, c'était la stabilité. Puis tu sais, là, j'ai des chums qui m'envoient les photos de leur bébé Can-Am. Là. Je vous salue.
Oui.
Mais c'est juste que moi, je ne suis pas encore rendu là. Mais je ne ferme pas la porte là, lorsque j'aurai un genre de 60, 70, même 80 ans à acheter ce type de véhicule-là. Que ce soit un Can-Am ou encore que ce soit un Harley 3 roues, parce que oui, ça existe, les Harley 3 roues.
Oui.
Là. Je ferme pas la porte à ça. T'sais. C'est juste que si à un moment donné, tu veux pas te casser la tête puis tu veux pas t'occuper de la stabilité de ton véhicule parce que tu es tout le temps dans le trafic, il n'y a rien de pire qu'être en moto dans le trafic, à tenir la clutch constamment tout le temps. Là. Quand tu as ce genre de véhicule-là, tu es beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus relax puis très, très confortable.
Ben oui, totalement. Puis tu sais, Bon, vous le savez, c'est mes collègues d'Adrénaline à Lévis là, qui me passent ces machines-là. Puis Étienne le voyait dans mes yeux en partant que j'étais comme pas sûr là, du côté Canam, que ce soit le Riker, que c'était vraiment le Spider ou celui-là. D'autant plus que lui, cependant, quand tu le regardes, il a vraiment l'air d'une grosse bébite d'aventure. Fait que c'est sûr, dans les points améliorés, c'est pas une machine pour un sentier de VTT. Les gens, il faut qu'ils soient conscients, mais est-ce qu'il y a de la place pour ça? Je croirais que oui, ça risquerait d'être intéressant. J'aurais aimé des pneus avec un peu de l'aramide à l'intérieur pour une protection, tu sais, pour pas avoir peur de faire une crevaison justement dans des routes qui sont avec un peu plus de 0,75 comme on dit. Et il manque vraiment le freinage indépendant, là, une poignée là, en haut, voire même aussi le fameux changement d'embrayage au pied. Et le prix, soyons conscients que ça peut exploser, mais le fun de conduire, la suspension là-dessus, la qualité générale de ces machines-là, puis l'accès à la maintenance facile, moi, je dois avouer que c'est quand même venu me chercher. Puis, je te dirais qu'une version 3 roues motrices, ça serait débile mental. Je te le dis tout de suite.
Puis, ça vaut combien ces véhicules-là, entre 30 et 40 000 $?
Bien, il faut faire attention. Si tu regardes comme il faut la gamme au complet de BRP, là, disons qu'on commence par le Riker, c'est sûr qu'on va être capable de démarrer quand même un prix qui est assez abordable. Puis là, ben, quand je dis abordable, c'est qu'on peut être aux alentours de 12 000 $ quand même assez facilement là, pour ces modèles-là. Il faut dire que là, présentement, on est en modèle 2024-2025. Des fois, il en reste d'un côté ou l'autre. Cependant, si on s'en va dans le modèle le plus équipé, c'est sûr qu'un modèle Canyon comme celui-là que j'avais, c'est une édition en plus Red Rock qu'on appelle. Fait que le prix de départ du Canyon, moins équipé, pas de valise, part à 31 000 $ PDSF et ça va jusqu'à 40 500 $ le Canyon Red Rock que j'avais. Là, c'est vraiment l'aventure ultime avec toutes les... Puis encore là, quand je parle de qualité, là, tu te bats pas avec une valise. Tu le vois là, quand il ne rentre pas de l'eau à l'intérieur. Tu le vois que la suspension KYB, c'est vraiment ça coche. Non seulement les poignées chauffantes, caméra de recul, tout le système multimédia avec Apple CarPlay aussi qui est disponible. Tu le vois là, qu'on a une coche qui se rapproche de plus en plus de la technologie automobile. Est-ce que le prix est fou? Pour moi, oui. Mais devinez quoi? Les gens qui trippent Can-Am, qui trippent Spider, sont prêts à mettre ça parce que c'est juste des RT et des F3 full équipés que je vois présentement. Donc, souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vendre leur Goldwing, vendre leur gros Harley et se promener plutôt avec ça dans un mode sécuritaire. Et moi, le côté aventure, ça vient plus me chercher. Fait que je n'ai pas détesté le Canyon, mais je ferais quelques petits tweaks au niveau de l'électronique de stabilité, cependant.
En juin, dans Marceau le midi, je parlais de la maison Chrysler qui avait des problématiques. Là. On avait décidé de fermer, de mettre la clé dans la porte et on avait dit aux employés, « Bon, dommage, votre dernière semaine ne sera pas payée. » J'avais trouvé ça chien sale là, de la part des propriétaires de la maison Chrysler actuelle. C'est des gens de Montréal, de ce que je comprends. Puis jusqu'à quel point c'est légal de dire aux employés, « Hey, la semaine que tu viens de faire là, on est vendredi, la semaine que tu viens de faire là, elle ne sera pas payée. » Je trouvais ça chien sale. De ce qu'on apprend, c'est que dans les derniers jours, on a annoncé la fin de la maison Chrysler de Charlebourg. Ça faisait quoi, 50 ans qu'ils étaient là?
Oui, mais ça a passé dans le journal. C'est une petite section que moi, j'aime bien checker. C'est les avis légaux. Là. Tu sais, quand ils passent tout simplement une faillite d'un numéro un peu louche, et en googlant le numéro là, sur la recherche des entreprises du Québec, on se rendait compte que c'était la maison Chrysler qui annonçait là, la faillite. C'est assez difficile d'imaginer qu'un concessionnaire aujourd'hui, l'automobile, là, il ne puisse pas être rentable. Après 50 ans en affaires, la maison Chrysler, là, ça a fermé les portes, ça a déclaré faillite. C'est 2,7 millions de dettes envers 101 créanciers. Bon, il y en a qui vont dire que ce n'est pas si pire que ça. Il ne faut pas oublier qu'il y avait eu un rachat de ce commerce-là en 2022. On a mis fin aux activités le 6 juin, le précédant l'avis de licenciement là, du 3 juillet. Parmi les créanciers figurent la Ville de Québec, Revenu Québec, l'ancien partenaire d'affaires, puis pire encore, là, comme tu le dis, les employés pas payés là, leur dernière semaine ni leurs vacances malgré les obligations légales, ça c'est atroce. Mais ça met quand même en lumière les défis de gestion puis de rentabilité, parce que même dans un secteur qu'on répute stable comme celui de l'automobile, il ne faut pas oublier que quand tu as des véhicules à 80 000 bâtons là, pour les Jeeps, là, puis aujourd'hui, là, essaye d'aller acheter un Jeep 4 portes de base en dessous de la barre de 60 000 $, ça n'existe pas. souvent la moyenne des véhicules va être des véhicules de performance qui étaient vendus, des Jeep, des Cherokee, sans oublier les Gladiateurs de ce monde. Et le prix commun, il n'était pas rare de voir une facture de 80 000 $ et plus financée, que les gens ressortaient là, justement, sur des termes là, qui avaient pas, qui étaient à pu finir. Puis les clients, aujourd'hui, s'attendent à un service irréprochable, puis oui, à être traités comme des rois au service. Fait que pas maintenir ces standards-là pouvait coûter cher, même à une entreprise locale qui était bien établie. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui disent que les problèmes, ce n'est pas nécessairement le concessionnaire en soi, mais c'était la vente de certains produits Stellantis, que tu peux avoir le meilleur service au monde, mais si tes produits de base ne sont pas bons, tu vas fermer les portes assez rapidement. Puis je pense que l'industrie automobile aujourd'hui, elle doit faire face à une réalité que vendre des chars à des prix de fou, là, si ton char il est bourré de cancer, puis bourré de problèmes, puis bourré de gremlins, à un moment donné, ça va avoir une fin, tout ça. Il y en a plusieurs aussi qui sont de la plus jeune génération, qui croient énormément envers le côté électrifié, le côté électronique, le côté Tesla, l'attachement au travers tout ça, qui disent que certains concessionnaires vivent encore sur les faits, où est-ce qu'on garde les vieux modèles, les vieux clients, les vieux trucs encore, tu sais, pour faire de l'argent. Ben, ça se peut que ça ait une tournée aujourd'hui. Fait que si j'étais un concessionnaire, je regarderais comme il faut qu'est-ce qui s'est passé là. Et je vous le dis, là, même les marques les plus réputées fiables, là, de ce temps-ci, ça tombe comme des gremlins au niveau des réparations. Et non seulement ça coûte les yeux de la tête, et ça fait mal. Donc, marché automobile, là, c'est vraiment un bon indicateur du commerce. Puis il faut vraiment là, le garder à l'œil.
Mathieu Thomassin, le chroniqueur automobile le plus demandé en ville, le gars de Question Auto, Car Question sur YouTube. Bien, tu nous as sorti le topo des véhicules les plus vendus depuis 2025. Les voitures, les camions, les VUS. Pascal, si tu avais à faire un guess sur un véhicule en particulier qui est extrêmement vendu au Québec, ce serait lequel depuis 2025?
RAV4.
Moi, je vois des RAV4 aussi à côté sur les routes.
Ouais.
C'est-tu le premier véhicule vendu au Québec, là? C'est-tu dans ton top?
le RAV4, mais ben, quand on dit Québec, on va l'élargir un petit peu plus large aussi. Là, on parle vraiment là, du côté canadien. Là. Effectivement, c'est le véhicule le plus vendu sport utilitaire.
Et le
Et
plus volé, donc racheté.
Ouais, effectivement. Puis en passant, quand on parlait de Gremlin, j'ai beaucoup d'échos au niveau de certains systèmes de traction intégrale sur ces véhicules-là présentement. Donc, semblerait là, qu'on n'en ait pas à nos premiers balbutiements. Si vous avez des détails ou si ça vous est arrivé, je vous rappelle peut-être de me faire signe, c'est des petits dossiers que je travaille. On a vendu au-dessus de 41 000 unités, un petit baisse de 1 %, mais on est suivi de très, très proche, ben, je dis très proche, une bonne dizaine de mille d'unités de moins du Honda CR-V qui, lui, cependant, a connu une hausse de 18 %. Pas très loin en troisième position, le Nissan Kicks avec 20 000 unités. On est en hausse de 106 % là-dessus. Et le Nissan Rogue, quant à lui, qui plaît quand même à beaucoup de consommateurs, se fait la quatrième position en baisse de 0,2 %. Et on vient clore les SUV les plus vendus au premier semestre avec le Hyundai Tucson, qui lui connaît encore une fois une hausse fulgurante. Aussi, les Coréens, c'est fou, 21 % d'augmentation.
Ah oui, Mathieu, je vais te demander de te rapprocher de ton micro parce que je t'entends de moins en moins bien, là.
Ah
Le
oui,
Tucson
d'accord.
est encore extrêmement vendu?
Oui, il est encore extrêmement vendu de ce côté-là. Un Tucson, là, on parle de 18 745 unités. C'est très, très populaire. C'est pas nécessairement le seul VUS populaire chez Hyundai. On parle vraiment que le Kona aussi réussit très bien à tirer son épingle du jeu, mais s'en fait quand même gruger là, par le Tucson.
Pascal, en terminant, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Toi qui es une fan de la série Fast and Furious, entre autres Tokyo Drift,
oui.
Le char de tes rêves,
oui.
La fameuse Mazda RX-7 est à vendre actuellement. C'est
Arrête
important de te dire
donc.
Que c'est un véhicule qui est modifié
Mais je le
quelque
savais.
peu.
Je le savais.
Tu pourrais peut-être l'acheter, là, Mathieu, c'est ça qu'on comprend.
Enfin, mon
Ben, en
rêve.
fait, oui, tu pourrais l'acheter, mais elle a déjà été vendue aux enchères. Fait que si tu n'as pas participé à cette enchère-là, Pascal, tu es un peu en retard. Mais une petite RX-7 92 comme ça, directement du film The Fast and the
Moi, je voulais me
Furious,
prendre pour Vin
Tokyo Drift.
Diesel, ça, c'est pas, c'est partie remise, là.
Non, c'était Hans qui conduisait celle-là. C'est pas celle-là de Vin Diesel. Toi, t'es un peu plus Charger, Challenger, un peu plus américain, là,
Pascal. Ben, tout ça.
Ouais, ou encore le Supra de Paul Walker. Paul, il était si beau.
Oui, c'est vrai, c'est triste.
Juste décès. Pour te dire, il y a de ça quelques années, Pascal avait embarqué quelqu'un qui faisait de la course automobile dans son véhicule et Pascal était persuadé que son véhicule, c'était l'équivalent d'une Mercedes et le gars était assis côté passager et avait la chienne de sa vie. Je te rappelle que c'est un gars qui prend des courbes à 300 km/h, qui n'a aucun stress dans la vie.
Pas par ma conduite!
Mais avec le véhicule de Pascal, le gars était pas sûr.
Ouais, est-ce que c'était à cause de Pascal au volant? Parce que je sais que Pascal au volant de trottinette aussi, c'est assez dévastateur.
Non. Hey, là, non? Ma conduite est bonne, mais c'est juste, c'était l'entretien de mon véhicule. Qui... puis la personne était restée vraiment calme. Puis elle me disait, ouais, dans le fond, pas d'ABS, c'est quand même dangereux. Puis dans le fond, je suis sûre que ton bearing de roue avant, je l'entends. je pense qu'il faudrait que tu fasses... Sais-tu ce que ça fait, Pascal, quand un bearing de roue est scrap? Dans le fond, ta roue peut juste sortir.
Tu sais, le gars, il prend des courbes à 300, mais embarqué avec Pascal, il y avait une hésitation. Surtout quand il a dit « je t'amène chez nous, bébé ». Là, il y avait vraiment
un gros... Moi, j'établis une règle très claire. Là. Peu importe que tu sois sur une date ou non, si la fille arrive avec son véhicule, c'est moi qui conduis. Là. Tasse-toi de là. Là
mon macho.
Je veux pas vivre la peur. Mais si on...
C'était pas une date, là, puis ça fait longtemps. Là.
C'est ça.
C'est réglé, okay. Ça.
Salut, ouais, mon
ça n'a pas duré longtemps.
Merci, Matt.
RX7, donc, je vous rappelle, il a été vendu pour 1,2 million de dollars à la vente aux enchères de Bonham à Goodwood cette année. Ça passe vraiment le record du Toyota Supra 94 qui avait été vendu 550 000 dollars de face.
Toujours un plaisir. Mathieu Thomassin, question auto car question sur YouTube. On peut-tu te voir à la télé aussi ces temps-ci?
Non, c'est très tranquille à la télé, mais je vous dirais que YouTube fait en masse sa job, là, c'est pas pour me vanter, hein, mais on reçoit des commentaires tout bord, tout côté. On me juge un peu aussi avec mon dernier vidéo là, du Can-Am Canyon, mais ça, devinez quoi, je suis comme un canard, là. J'ai travaillé à plein d'endroits, puis vos insultes me coulent sur le dos. Mais je prends toujours vos bons commentaires et j'ai toujours du plaisir à faire des beaux vidéos.
Tu m'enverras une photo de toi sur ton trois roues, ça me fait plaisir de la garder en souvenir.
Je t'envoie ça. Drette là, tu veux que je sois semi-habillé? OK, c'est bon, bye-bye.
Bye-bye. Mon chum Guillaume qui m'écrit, « Salut Yann, déluge sur la 55... déluge de la 55 sur la 20 vers Québec. » Beaucoup d'eau, donc encore là, un peu partout à la grandeur du territoire, il y a une problématique. Centre-ville de Québec cessait d'appeler au 911 pour dire qu'il y a de l'eau. Les autorités sont au courant. Le 911 est débordé.
Ouais, c'est pas drôle là, en ce moment, les débordements d'eau, c'est pire que ce qu'on annonce depuis le début de l'émission. Pas qu'on y croyait pas, c'est qu'en image, c'est fulgurant. Hauteville, Côte-de-la-Pente-Douce, avenue Belvédère, avenue Chouinard, rue Calixa-Lavallée, c'est non, c'est complètement non. Basseville, chemin du Foulon, Côte-Gignac, Côte-Gilmore et la rue du Petit-Champlain, c'est non. Ralentissement à prévoir, mais surtout dérape à prévoir, c'est ce qu'on constate.
Merci beaucoup, Pascal. Les trois accords, Corinne sur Boulevard. Si vous avez des choses à nous dire, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021.